Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Ce soir, pour m'accompagner, Pascal Essérick, rédacteur en chef du magazine Élément. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Alors, chers auditeurs, nous vous souhaitons bien sûr une bonne année 2013 de la part de toute l'équipe de la Vieille Europe, sachant qu'on n'est pas au complet. Philippe Christel et Grégoire Gambier ne sont pas là, mais rassurez-vous, dès le mois de février, on aura fini de les bannir. Pendant 2 ou 3 mois, ils ne sont pas venus, mais je pense que c'était une question surtout de travail. Donc, une bonne année 2013, une année qui nous demandera pas mal de courage pour affronter une crise qui n'en finit pas. Et je pense qu'elle ne sera pas prête de se finir cette année. Et pour commencer, en ce mois de janvier, nous ne parlerons pas de Gérard Depardieu, ni de Brigitte Bardot. J'espère que ça vous fait plaisir. Nous allons revenir sur l'Europe, à moins que Pascal avait peut-être envie d'en parler, non ? On n'en parlera pas. Nous allons revenir sur l'Europe, car pendant que nos politiques se chamaillent sur ces évasions fiscales de stars, ou de savoir si ces stars de cinéma gagnent trop d'argent ou pas assez, on s'est aperçu quand même que le débat sur le pacte budgétaire européen a été quasiment inexistant. On a un peu entendu les partis d'opposition, mais quasiment pas, dont le titre de notre émission, l'Europe, le coup d'État permanent. Donc nous aurons en seconde partie de soirée, car nous sommes basés sur le futur numéro d'éléments qui va sortir d'ici une dizaine de jours, c'est ça Pascal Essérick ?
Exactement.
Sur le pacte budgétaire européen, le coup d'État à la fin de la souveraineté. Et on a eu l'exclusivité d'avoir les épreuves qui sortent directement de l'impression, mais vous l'aurez d'ici 10 jours en kiosque. Mais pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation aux Chroniques de la Vieille Europe. Alors, on ne vous présente pas aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes député-maire et vous menez depuis longtemps votre combat politique contre cette Europe bruxelloise. Vous êtes aussi le président de Debout la République. Alors, je voudrais commencer par... on présente souvent ce nouveau traité européen comme le traité du sauvetage de l'Europe, de l'euro, pardon, avec comme grand principe la création du mécanisme européen de stabilité. Mais en résumé, n'a-t-on pas créé une sorte de FMI pour l'Europe, une sorte de modèle similaire pour les pays européens ?
Oh, c'est encore pire. En vérité...
Pire.
C'est encore pire. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les chefs d'État ont décidé, vous parliez de coup d'État permanent, ont décidé en fait de capter par avance l'épargne des Européens. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mécanisme européen dit de stabilité, qui ne stabilisera d'ailleurs rien du tout, mais qui est une somme financière, un fonds financier garanti par les différents États. Et ce mécanisme, qui se chiffre en centaines de milliards, s'il n'est pas utilisé, ne coûte rien. Et c'est ce qu'ils nous disent. Mais s'ils le font, c'est pour l'utiliser. Et c'est pour l'utiliser si par malheur ou par aventure, des États, notamment l'Espagne, ne peuvent pas rembourser leurs dettes. En gros, si je vais être clair pour l'auditeur, ce qui s'est passé pour la Grèce, à petite échelle, peut se passer demain pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à un moment, un État, parce que la politique économique qui est menée au niveau européen est absurde, un État ne peut plus rembourser ses dettes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce ? On a asphyxié le peuple grec, on a cassé la croissance, on n'a pas eu davantage de recettes, et à la fin, les banques ont racketté les États, et c'est les contribuables allemands, français et autres qui ont payé la dette grecque. Bon, les 2/3 du moins. Il reste un dernier tiers. Et ça représentait 200 à 300 milliards, c'est pour la Grèce. Mais l'Espagne, si demain c'est l'Espagne, c'est 500, 1000 milliards. Et là, comment on fait ? Et donc, c'est le mécanisme dit européen de stabilité, c'est-à-dire que les États ont apporté leur garantie et disent, voilà, si un jour l'Espagne fait faillite, on ne peut pas rembourser ses emprunts, eh bien, les contribuables de tous les pays les paieront.
Alors, le problème, c'est qu'on a introduit quand même pour la première fois une sorte de conditionnalité. Cela signifie qu'une assistance financière ne pourra être accordée qu'aux États demandeurs qui s'engageront en contrepartie à mettre en œuvre un programme de réforme. C'est-à-dire qu'on leur oblige ces réformes comme le FMI le faisait à une époque pour les pays africains.
Oui, en vérité, on oblige des réformes qui, en vérité, aggravent le mal. Si je devais prendre une image la plus simple possible, parce que ce sont des matières qui apparaissent complexes, mais en fait c'est très simple, c'est un malade, comme du temps de Molière, on n'avait quand même pas fait des progrès extraordinaires en médecine, alors on pensait que si on saignait le malade, c'est-à-dire si on le vidait de son mauvais sang, il allait guérir. Mais on ne savait pas qu'en le vidant de son sang, on le tuait. Non. Ben, c'est exactement la même chose qui se produit. On fait croire aux opinions que si l'économie grecque n'a pas été, si l'économie espagnole, si l'économie italienne, si l'économie française ne va pas, c'est parce que, en gros, on a mal géré les finances, on a endetté le pays, etc. Alors là, je veux être bien précis, parce que je veux dire aux auditeurs qu'on les manipule. Certes, il y a des dépenses excessives, on est bien d'accord. Certes, il y a des gaspillages, on est bien d'accord. Mais la vraie cause de la dette, ce ne sont pas les gaspillages, ce n'est pas les dépenses excessives. C'est l'effondrement des recettes fiscales, sociales, que payent les entreprises. Et cet effondrement des recettes s'explique pour une raison très simple, ce sont les délocalisations. La France, et j'insiste là-dessus parce qu'on cache ça dans les médias classiques, la France a perdu 1 million d'emplois en 12 ans. 1 million d'emplois. Bah, 1 million d'emplois de moins, vous pensez bien que c'est 1 million de charges sociales de moins. C'est 1 million d'impôts de moins. Ça veut dire que les recettes se sont effondrées. Et donc ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'au lieu de comprendre pourquoi on a perdu ce million d'emplois et comment on pourrait récupérer 1 million d'emplois, on dit, ah, il faut faire des réformes de structure. Et les réformes de structure, en gros, c'est vivons comme les Chinois, détricotons toutes les revenus des Français, faisons souffrir le peuple et ça ira mieux. C'est la saignée de Molière. Mais ça n'aboutit pas et ça ne marche pas. C'est ça l'enjeu.
Au moment de la création de la CEE, très peu de personnes ont contesté dès le départ le projet qui quand même s'inspirait de principes venant directement d'une doctrine néolibérale de type anglo-saxonne avec une autorité non démocratique. Comment expliquez-vous que la France, à droite comme à gauche, hein, a pu céder aussi facilement on a fêté, malheureusement, mais on pourrait rendre hommage il y a 3 ans... Vous avez rendu hommage à j'ai un trou de mémoire.
À Philippe Séguin.
Ouais, Philippe Séguin qui effectivement en fait qui a été quasiment l'un des seuls à voir que le système n'allait pas. Comment vous expliquez que la droite comme la gauche hein, et tous les partis politiques sont rentrés dans ce système néolibéral et n'ont strictement rien dit?
Alors attention. Si je peux me permettre de corriger sur 2 points.
Oui, allez-y.
D'abord, moi je ne suis pas contre l'idée d'un travail en commun des nations européennes. C'était l'idée du général de Gaulle, c'est ce qu'il voulait faire de la communauté économique européenne, et souvenez-vous, jusqu'au marché unique, c'est-à-dire jusqu'en 1986, entre 58 et 57 exactement le traité de Rome, et je dirais le début des années 90, il y avait une communauté économique européenne, mais il y avait, par exemple, un tarif extérieur douanier commun. C'est-à-dire qu'on faisait le libre-échange entre nous, en plus avec 6 pays, hein, qui étaient d'un niveau social, j'allais dire culturel, civilisationnel, un peu identique, et on acceptait de supprimer des barrières douanières, on se mettait en concurrence, la concurrence c'est sain, moi je suis pas pour une économie socialiste, mais on protégeait aux frontières. Et ça, c'était bon pour l'économie, c'est-à-dire qu'on ouvrait les marchés, mais on se protégeait. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une dérive. Vous voyez, les choses sont pas si simples. Il y a eu une dérive. D'abord, De Gaulle est parti, Pompidou est arrivé, Giscard, l'Angleterre est rentrée dans le marché commun, et il y a eu une période où on a fait croire que la libre concurrence totale, ce qu'il faut de la libre concurrence, mais pas totale, la libre concurrence totale était parfaite. Et on a abaissé toutes les barrières douanières. Et notamment, on s'est mis en concurrence avec ce que j'appelle des esclavagistes dans les pays émergents, qui sont d'ailleurs faits par des entreprises occidentales, et qui ont entraîné les délocalisations. Et alors, ce que vous dites est très juste, au même moment, on a fait la monnaie unique. Et la monnaie unique, on l'a fait sur le modèle du marque. Au même moment, les socialistes français ont fait les 35 heures. Ça, c'était en l'an 2000. Donc, en l'an 2000, c'est très intéressant, historiquement maintenant, c'est il y a 12 ans, en l'an 2000, on a fait 3 choses en même temps qui ont tué l'économie française. On a fait les 35 heures, c'est-à-dire qu'on a augmenté les charges sur les entreprises. On a fait l'euro, qui est devenu une monnaie très chère, trop chère pour exporter. Et nos entreprises ne vendent plus rien sur le marché mondial parce que l'euro est trop cher. Et troisièmement, on a ouvert les frontières. La Chine est entrée dans l'OMC, c'est-à-dire qu'on a abaissé toutes nos barrières douanières avec des Chinois qui font travailler des esclaves à 50 euros par mois. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nos entreprises ont été laminées. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. C'est le renard dans le poulailler. Et ce qui est extravagant, et vous avez raison, c'est que la plupart, en fait, pas tous heureusement, au PS comme à l'UMP, à droite comme à gauche, je dirais dans la droite de gouvernement comme dans la gauche du gouvernement, ils sont tous écrasés. Mais il faut quand même rendre hommage à des gens comme Philippe de Villiers, comme Jean-Marie Le Pen, comme à gauche Jean-Pierre Chevènement, comme certains au Parti communiste qui ont combattu ce système. Hein, il ne faut pas faire croire non plus qu'il n'y a pas eu des voix différentes.
Effectivement, il y en a eu quelques-unes.
Votre serviteur, etc. Simplement, on a été, je dirais, exterminés par la pensée unique, médiatique, les milieux d'affaires, etc. Mais on n'a pas été tant exterminés que ça, parce qu'on a quand même gagné un référendum en 2005.
Oui, c'est
le
vrai.
Peuple français est lucide. Il est lucide. Simplement, le jeu politique est tel que tout est fait pour marginaliser ceux qui, à droite et à gauche, pensent différemment.
Question de Pascal Essérick.
Oui, vous dites souvent que l'euro est mort, il faut sortir de ce piège. Mais quelles sont les modalités, selon vous, d'une sortie de l'euro en bon ordre? Est-ce qu'elle va de pair avec le maintien d'une monnaie commune européenne qui serait réservée aux échanges internationaux? Quel est votre avis?
Mon avis, c'est que d'abord, on a la preuve aujourd'hui. Moi, je regarde ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et ça, je tiens à le dire, parce que là aussi, on manipule les opinions. On a pu créer Airbus, on a pu créer Ariane, la fusée Ariane, on a pu avoir la plus belle période de croissance européenne dans les années 60, 70, 80, jusqu'à, ça a commencé à faiblir à partir de la crise pétrolière. Il n'y avait pas la monnaie unique. Donc, je veux bien rappeler à ceux qui nous écoutent que on a la preuve par l'exemple, par des faits. Moi, je ne suis pas contre l'euro par idéologie. Je regarde les faits. On a eu une croissance forte, il n'y avait pas de monnaie unique. On a fait des beaux programmes européens, il n'y avait pas de monnaie unique. Et j'ajoute qu'il y a encore 10 pays dans l'Union européenne sur 27, il y en a 10 qui n'ont pas l'euro. Et ce sont les pays qui ont la plus forte croissance. Donc, on a la preuve aujourd'hui, 12 ans après l'euro, que ceux qui ont été dans l'euro ont une croissance faible et un chômage de masse, et ceux qui ne sont pas dans l'euro s'en sortent mieux. Donc, premier point qu'il faut répéter inlassablement parce que on fait croire aux gens que l'euro a apporté des miracles, c'est pas vrai. Deuxième point, comme aujourd'hui beaucoup de Français il y a un sondage récent, 6 Français sur 10 regrettent le franc. Donc, ça prouve bien que les gens ont commencé à comprendre. Mais on leur fait peur en leur disant, oh là là, ceux qui veulent sortir de l'euro sont des dingues, vous allez être ruinés. Et comme le français, à juste titre, est attaché à la monnaie, ça a été le louis d'or, ça a été le franc fort, il y a beaucoup notamment de personnes âgées qui ont peur en disant « Ah, mais notre épargne !» Mais ce que je veux leur dire, c'est que s'ils restent dans l'euro, leur épargne, elle va être ruinée. On a commencé l'émission sur le mécanisme européen de stabilité. Pour sauver l'euro, on est en train de piquer l'épargne des Français. On est en train de les matraquer fiscalement. Donc, sortir de l'euro, c'est avoir une vie moins chère, c'est pouvoir exporter nos produits et relancer l'emploi, et puis c'est sauver l'épargne des Français. Mais je sais que c'est très dur à expliquer parce que les médias, les économistes affiliés aux banques font peur aux Français et essayent de nous discréditer. Alors enfin, troisième point, ce que vous me posiez comme question, il faut démonter l'euro de manière intelligente pour bien évidemment ne pas avoir une crise excessive. Mais ça se fera naturellement et il faut essayer de l'organiser. Et si on le fait au même moment dans tous les pays d'Europe, on retrouve des monnaies qui peuvent avoir une monnaie commune, c'est-à-dire un instrument, c'est un peu compliqué, mais un instrument de réserve commun qui serait l'euro, mais on aurait l'euro franc, l'euro marque, et il y aurait à la fois une flexibilité et en même temps, vis-à-vis des échanges internationaux, un référent qui serait l'euro. Et on aurait ainsi les avantages de la monnaie comme monnaie de réserve pour l'avenir et les avantages des monnaies individuelles à chaque État qui permettraient notamment à l'euro marque allemand de se réévaluer, ce qui freinerait les exportations allemandes, rééquilibrerait la balance commerciale allemande, avec moins d'excédents, et on aurait la chance d'avoir une monnaie, l'euro-franc, qui serait moins chère, et qui permettrait à nos entreprises de produire en France. Car si les entreprises délocalisent, il faut bien l'expliquer inlassablement, c'est parce qu'elles délocalisent hors zone euro, parce qu'elles vont produire dans des monnaies moins chères pour pouvoir exporter. Et c'est ça qu'on ne dit pas assez aux Français.
Donc, si je résume votre pensée, vous êtes favorable à une monnaie commune, hostile à la monnaie unique.
Totalement hostile à la monnaie unique, qui est en train d'étouffer le continent. Et ce que je veux dire, c'est que depuis la nuit des temps, des unions monétaires, il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait calculé qu'il y en a plus d'une centaine qui ont disparu. On n'est pas lié à l'euro à vie. L'euro ne marche pas parce que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie. C'est comme une veste, que vous soyez mince ou obèse, vous pouvez pas avoir la même veste. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même monnaie pour l'économie allemande et pour l'économie grecque. Là aussi, il n'y a pas besoin d'être un sphinx pour comprendre ça. Chaque pays a besoin de sa propre monnaie qui est adaptée à sa productivité. D'ailleurs, sinon, il y aurait une monnaie mondiale. Pourquoi il y a des monnaies différentes? Pourquoi, par exemple, la Suède, qui n'a pas l'euro, s'en est sortie merveilleusement bien, à 5% de taux de chômage? Pourquoi la Pologne a dévalué son zlot depuis 3 ans et n'a pas de chômage? Pourquoi l'Angleterre trouve des usines, aujourd'hui des usines automobiles réinvestissent en Angleterre, parce que les Anglais ne sont pas fous? Ils ont dévalué la livre de 20% depuis 3 ans. Alors je sais que les Français ont peur de la dévaluation. Il ne s'agit pas d'avoir un franc faible. Il s'agit d'avoir une monnaie qui ne soit pas trop chère pour que les entreprises aient intérêt à produire en France. Et si nous, je l'ai dit notamment à nos anciens, qui parfois, on le voit dans les sondages, sont les plus inquiets par la disparition de l'euro, si leurs petits-enfants n'ont pas de boulot, ils ont beau avoir de l'épargne en euros, qu'est-ce qu'ils en font? Ce qu'il faut, c'est créer de l'emploi en France. Et pour créer de l'emploi en France, il faut baisser les charges sur les PME. Et il faut se protéger au niveau européen et il faut avoir une monnaie moins chère. C'est simple comme bonjour. C'est tout.
On a souvent représenté l'Europe un peu partagée en deux, avec une France politique et une Allemagne économique. J'ai l'impression que l'économie a été souvent peu présente dans notre paysage politique, que ça soit de Mitterrand à Sarkozy, on a eu très peu de spécialistes de l'économie. Ça change un tout petit peu, on commence à voir à la télévision des gens comme Jacques Sapir nous expliquer tous les mécanismes de l'Europe. Pendant des années, Maurice Allais a prêché un peu dans le désert. Comment vous expliquez qu'en France, on a un problème pour comprendre l'économie? Et l'Europe, ça a été le problème économique en premier, quoi.
Alors, il y a plusieurs choses, c'est compliqué, hein, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gros intérêts économiques, et notamment bancaires, financiers, au détriment de l'économie réelle. Il y a un autre aspect sur l'euro qu'il ne faut pas oublier, hein. J'insiste là-dessus. Je l'ai expliqué dans un livre, d'ailleurs, je suis désolé de citer mon livre, mais
ça
s'appelle l'arnaque de l'euro, aux éditions de Rocher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sous le général de Gaulle, avant la loi de 73, l'État empruntait à la Banque de France à 0% d'intérêt pour ses investissements publics. Hein. Ça veut dire que quand on empruntait 20 milliards, on remboursait 20 milliards. D'accord ? Après la loi de 73, qui comme par hasard a été faite par Giscard et Pompidou, qui ont travaillé à la banque Lazare, la banque Rothschild, on a interdit à l'État d'emprunter à la Banque de France directement à 0%, et on l'a obligé à passer par des marchés financiers, c'est-à-dire des banques privées. Et les banques privées, quand elles prêtaient 20 milliards, eh bien, elles touchaient des intérêts. Bon. Et si... Depuis 73, on avait emprunté notre dette à 0%, c'est-à-dire auprès de la Banque de France. Aujourd'hui, la dette de la France serait de l'ordre de 11 à 12% du produit intérieur brut. Je vous rappelle qu'elle est à près de 80. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Rocard. On peut pas le suspecter d'être un souverainiste.
Hein ? Non.
On s'aperçoit que derrière l'euro, qui a sacralisé ça, il y a la volonté des banquiers, des banques privées, de capter la richesse collective, c'est-à-dire que les emprunts d'État soient assortis d'un intérêt. Et ce sont des sommes considérables, considérables. Cela veut dire que, évidemment, pour une banque, c'est tellement plus facile de prêter à l'État et d'empocher 4 à 5%, 3%, 2% selon les années d'intérêt. Vous n'avez rien à faire, c'est une signature pour des centaines de milliards. C'est tellement plus facile que d'aller prêter à un entrepreneur, à un artisan, de sélectionner le bon projet. Vous comprenez? Donc, en fait, il y a eu un dévoiement de la finance depuis les années 70 qui s'est emparé de l'économie. Et tout le programme économique que je défends, c'est justement un programme qui doit s'occuper des vraies entreprises, de ceux qui... Il y a des PME, des chercheurs, c'est l'économie réelle qui compte. Et ça, on ne s'en occupe plus dans notre pays, beaucoup moins qu'en Allemagne en tout cas. Donc, il faut que on ait une nouvelle culture économique, il faut que les hommes politiques arrêtent d'être les complices du système financier et s'occupent un peu d'intendance, c'est-à-dire aider nos entrepreneurs, baisser les charges. Par exemple, j'ai une mesure toute bête, si je puis m'exprimer ainsi, qui existe aux États-Unis dans certains États, c'est que je veux diviser par deux l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices qui sont réinvestis sur le territoire français. C'est simple. Bercy n'en veut pas, évidemment. Parce que cette mesure, elle favoriserait qui ? Elle favoriserait les artisans, les PME, les gens qui ont un sens civique national, ceux qui investissent sur le territoire français. Et bien sûr, elle défavoriserait qui ? Les grandes entreprises du CAC 40 qui ont aujourd'hui investissent majoritairement à l'extérieur de la France. Donc vous voyez bien qu'en fait, il y a un combat sous-jacent derrière entre ce que j'appelle le monde des entrepreneurs, ceux qui bossent, et le monde de la finance, ceux qui raquettent. Et c'est ça l'enjeu. Et la classe politique française majoritaire du PS et de l'UMP est du côté des banques et des grandes entreprises du CAC 40 qui ont décidé de tirer une croix sur la France. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de salaire en France, il n'y aura plus de clients. Et on en arrive là.
Pascal Essérique.
Alors, dans la revue Éléments que je dirige, Alain de Benoît explique que tout montre aujourd'hui que les dirigeants de l'Union européenne sont prêts à n'importe quoi, même au pire, pour ne pas toucher à l'euro. Comment dans cette actualité vous pouvez réagir par rapport à ce quelles sont les possibilités sachant que les dirigeants européens sont prêts à tout?
Ben, c'est très difficile.
On l'a vu en Grèce, en Espagne et au Portugal.
Alors, d'abord deux choses. D'abord sur le plan médiatique, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai sorti il y a un an et demi, ou deux ans maintenant, mon livre sur l'arnaque de l'euro, où je parle du scandale de France Trésor, c'est-à-dire cette agence qui place la dette française, qui dépend de l'État, et dont le conseil stratégique est composé de grands banquiers internationaux étrangers. J'ai pas eu une ligne, et pas une ligne, dans la presse française. J'ai même pas pu avoir de dépêche AFP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse française qui est achetée par les banques, par les pages de publicité, ne dira jamais rien contre le système bancaire. Ça prouve un problème d'information, déjà. C'est-à-dire que les banques françaises ont pris le pouvoir sur l'État. Donc il y a un vrai problème de liberté de parole. Et je vous remercie de m'inviter là-dessus. Le deuxième point, heureusement, il y a Internet, il y a des radios comme les vôtres, etc. Le deuxième point, c'est que malheureusement, les faits, la réalité va se venger. Parce que, regardez, ils ont dit à la Grèce, il faut faire des mesures de rigueur, de la saigner. Ils l'ont fait en Espagne, au Portugal. Ils sont en train de le faire en France avec le matraquage fiscal. Quelle est la conséquence? C'est chômage de masse, chute des recettes fiscales, explosion de la dette. Misère, pauvreté, et qu'est-ce qui se passe à la fin? Explosion sociale. Donc on va vers ça. Et il y a un moment où le système ne sera plus tenable. Et il y a un moment où les peuples se révolteront par les faits. Et c'est là où nous devons être capables politiquement de leur présenter, je dirais, une offre politique intelligente. C'est ce que j'essaie de faire à la présidentielle, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec mon mouvement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que tous les patriotes de droite comme de gauche, parce qu'il y a des patriotes à gauche, il y a des patriotes à droite, comme pendant la résistance. On arrive à s'entendre pour présenter à un moment un projet de salut public. Et j'ai vu, tiens, ne serait-ce qu'aujourd'hui, un des anciens collaborateurs de Maurice Allais, qui est venu me voir, parce que Maurice Allais m'aimait bien. Il m'a remis un texte, Maurice Allais, qui avait tout vu. Maurice Allais, c'était le prix Nobel d'économie, un des seuls Français qui a été interdit d'antenne dans nos télévisions et nos radios. Pendant 20 ans.
Oui, il est quasiment inconnu des Français.
C'est fou. Donc, si vous voulez, je veux dire qu'il y a un moment, vous savez, dans la vie la vérité apparaît. La vérité apparaît. Simplement, c'est extrêmement difficile pour ceux qui la portent, croyez-moi. Il y a aussi trop de divisions chez les patriotes, il y a aussi parfois manque d'informations, donc on a un gros boulot à faire. Et puis, je dirais, les petits ruisseaux vont faire la grande rivière. Il y a un moment, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. D'abord parce que l'Allemagne, à un moment, va refuser de payer. À moins que nos États soient prêts à se mettre sous sa botte pour survivre, ce qui est possible quand on voit la classe politique française. Mais je pense quand même qu'à un moment, le système ne pourra pas tenir. Et l'enjeu majeur, c'est l'Espagne, l'Italie et la France, qui ne pourront pas supporter l'euro longtemps.
On a parlé beaucoup pendant cette campagne présidentielle, enfin au départ, de mondialisation, mais j'ai l'impression que les seuls qui subissent cette mondialisation, c'est l'Europe, parce que quand on prend le reste du monde, le monde se protège, les États-Unis, le Brésil, la Chine, on serait pas un peu les idiots utiles de cette mondialisation? On est les seuls à avoir ouvert à ce point-là la mondialisation.
On est les seuls. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que l'Allemagne gagne encore. Et en fait, l'Europe qu'on a construite, c'est une Europe allemande. Donc l'Allemagne a un excédent colossal, vend des machines-outils. Alors on nous dit, oui, mais pourquoi l'Allemagne s'en sort, vous, c'est que vous êtes incapable français. Il y a deux raisons. C'est parce que l'Allemagne ne fait plus d'enfants. L'Allemagne est en suicide démographique. Alors quand vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de coûts. Et je dis là aussi ce que je lis parfois dans le Figaro, toujours cet esprit anti-français, les Allemands sont merveilleux et nous on est des nuls. Est-ce qu'ils sont merveilleux puisqu'ils font plus d'enfants? Alors, les Kers, ils font des économies considérables sur l'école, sur la santé, etc. Mais et c'est un pays qui est en diminution démographique. Nous, on a la chance d'avoir un pays qui fait des enfants. Donc, l'Allemagne décide de la politique européenne. Comme pour l'instant, ils vendent des produits dans le monde, eh bien, l'Europe est à sa botte. Et nous, en revanche, on est en train de faire complètement faillite. Alors, la mondialisation, c'est une guerre économique. Et dans une guerre économique, si vous partez sans fusil, ça va pas bien. Et tous les pays se protègent. La Chine fait une politique scandaleuse de triche, comme si vous jouez aux cartes et que vous trichez. Et les Européens disent merci. Pourquoi ils disent merci? C'est parce que l'Allemagne y gagne encore. Le jour où l'Allemagne y perdra, alors là, tout d'un coup, ils découvriront qu'on y perd. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient qu'on a des dirigeants français qui sont coupables de haute trahison. Il faut appeler un chat, et qui sont couchés. Couché devant les Allemands, couché devant les Chinois, couché devant les Américains, couché devant certains pays du Sud. Et c'est le vrai problème, nous sommes colonisés. Nous sommes victimes d'une colonisation économique, de population, une colonisation culturelle. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nos dirigeants ont abandonné la fierté de la France. Ils ne savent plus ce qu'ils défendent. Donc ils ne défendent plus rien.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie et nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Nicolas Dupont-Aignan à propos de ce traité européen que l'on considère comme un véritable hold-up.
Démocratique. Ouais.
Si nous avons été peut-être aveugles sur cette construction européenne, en tout cas telle qu'elle s'est faite, nous avons pu voir que les marchés financiers avaient, eux, rapidement vu la faille de l'euro au moment des dettes grecques ou irlandaises. La journaliste suisse Miret Zaki, qui démontre très bien que l'attaque de l'euro a été aussi organisée pour sauver le dollar. Il y a eu un peu un silence sur cette crise qui quand même vient des États-Unis. On n'a pas eu l'impression que l'Europe s'est beaucoup révolté contre ce système américain.
Non, c'est vrai, mais le problème de l'Europe, c'est que l'Europe, ça n'existe pas, pardonnez-moi. Alors, je vais vous choquer, mais Madame Merkel, elle ne considère pas que l'Europe existe. Madame Merkel, elle défend l'intérêt de l'Allemagne, qui est en Europe. La France, elle ne défend pas l'intérêt de la France. Les Anglais défendent l'intérêt des Anglais. Alors, moi, ce que je propose, c'est que chaque peuple défende son intérêt, mais qu'ils travaillent ensemble. Et si d'ailleurs les Européens, par exemple la France aurait très bien pu proposer que plutôt que de prêter 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a prêté 1000 milliards d'euros, c'est énorme, aux banques privées pour les sauver à 1%. Si on avait prêté le quart de cet argent à des projets européens, par exemple inventer la voiture propre, inventer la voiture électrique, inventer le panneau solaire de demain, favoriser la recherche contre le cancer, il y a de très beaux projets qu'on pourrait faire à plusieurs. Moi je suis pas pour faire que de du français. Mais ce que je veux, c'est que l'Europe soit utile. C'est tout. Et le problème de fond, c'est que les Français, les dirigeants français devraient dire à nos amis allemands, italiens et anglais, nous, on joue plus. On a fini, on joue plus. Ce qu'avait fait le général de Gaulle, souvenez-vous, pendant la crise de la chaise vide, Et c'est comme ça qu'il avait créé la politique agricole commune. Le problème, c'est que les hommes politiques français ont renoncé. Et tout vient de là. Donc, il y a un moment où il faudra retrouver en France un pouvoir qui dit stop. Je joue plus à ces conditions. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire quelque chose en Europe. Moi, je ne suis pas pour le repli intégral sur soi. Je suis pour une politique de coopération, projet par projet, à la carte. Et puis, on pourrait parler aussi d'autre chose. C'est pas le thème aujourd'hui d'économique, mais n'oubliez pas que la suppression de toutes les frontières intérieures aboutit au délire migratoire, et notamment, par exemple, au scandale des Roms en ce moment. N'oubliez pas que les mafias se développent en France, et le trafic d'armes, parce qu'on contrôle plus nos douanes, nos passages frontières. N'oubliez pas que... Enfin, c'est un ensemble. On a tout abandonné pour une construction mythique et qui n'est pas concrète. Et en ce faisant, d'ailleurs, on nuit à l'Europe même. Donc on peut construire l'Europe autrement. Il n'y a aucune fatalité. Aucune fatalité.
Alors, il y a dans le mécanisme de la construction européenne, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 30 ans, on rajoute des couches et des couches. Mais il est impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on est forcément, dans cette histoire, obligé d'aller au clash pour sortir de cette construction européenne, parce que rien n'a été prévu, par exemple, pour sortir de l'euro, rien n'a été prévu pour qu'un membre parte correctement. Comment vous l'expliquez, ça ?
C'est la volonté d'une technocratie, de gens non élus au service d'intérêts financiers majeurs, de cadenasser les peuples. Et les gouvernements qui sont des fantoches. Mais je vais vous dire, quand il y aura une crise, on s'asseyera sur les traités. Hein. Il faudra bien les renégocier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Mme Thatcher quand elle a demandé son chèque ? Qu'est-ce qu'a fait M. Kohl quand il a fait la réunification allemande sans demander l'avis à personne ? Qu'est-ce qu'a fait le général de Gaulle quand il a fait la politique de la chaise vide ? À un moment, il a dit stop, on joue plus. Puis ça s'est réglé. Vous savez, faut pas s'inquiéter, ça, ce sont des chiffons de papier, les traités. Donc à un moment, il faudra s'asseoir dessus dans l'intérêt du peuple. Et si on le fait pas, vous aurez la révolution ou la misère, ou alors un peuple d'esclaves. C'est-à-dire que la France sera une espèce de réserve, un musée que de riches Chinois viendront visiter. Ça a déjà un peu commencé. Voilà, c'est ça le choix. Moi, le choix que des Français ont, c'est ça, ou à un moment ils se réveillent ou pas. Mais pour ça, il faut qu'on leur donne une offre politique différente.
Alors le problème, c'est aussi qu'avec ce nouveau traité sur le TSCG, l'une des premières conséquences sera la fin de l'autorité des parlements européens en matière de budget. Ils auraient pu être remplacés par un parlement européen, mais en aucun cas il y aura, disons, plus aucun contrôle démocratique à ce niveau-là. Quoi. Depuis le 1er janvier, les parlements nationaux n'ont plus strictement de mots à dire sur le budget.
Oui, je rappelle tout aussi que vous avez déposé, je crois en octobre dernier, vous avez déposé au Parlement français un petit écriteau marqué « musée ».
Oui, on a avec d'autres parlementaires, une dizaine de parlementaires, UMP notamment, il y a quand même encore quelques gaullistes, Monsieur Lucas, Monsieur Millard et d'autres. Oui, on a mis ici, on est transformé en musée. Ben écoutez, on a abandonné la monnaie. Bon. On a abandonné les frontières. Et maintenant on abandonne le budget. Ben, expliquez-moi, est-ce qu'on est encore en démocratie quand les représentants du peuple abandonnent le contrôle des frontières, de la monnaie et maintenant du budget? Et je ne parle pas des normes, où la plupart des normes sont décidées à Bruxelles par des technocrates. C'est quand même gênant. Mais voilà pourquoi vous avez une crise politique en France, puisque vous faites une élection présidentielle qui est une gigantesque farce, avec deux candidats qui pensent la même chose et qui ont fait le même abandon de pouvoir. Sarkozy s'est fait élire en 2007 en disant « je vais reprendre en main la France », il s'est couché à Bruxelles. Il a fait adopter le traité de Lisbonne sans référendum. Alors qu'en 2005, nous avions refusé, le peuple avait refusé par référendum. Hollande se fait élire sur la croissance et il va à Bruxelles 2 mois après pour signer le traité budgétaire dont vous parlez. Donc, il y a un moment, il va falloir quand même que les Français se réveillent. Simplement, il y a une telle manipulation de l'opinion et une telle force de l'UMP et du PS par la force médiatique qu'on fait croire aux Français qu'il n'y a pas d'autre issue que le PS et l'UMP. Et puis là, vous avez vu, ils ont inventé un truc formidable, le mariage homosexuel. C'est formidable,
oui,
parce que comme
là,
ça...
on en parle.
Eh bien oui, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le week-end, on va nous parler que de ça, et l'UMP va faire croire aux Français qu'il est opposé au Parti Socialiste. C'est-à-dire que ce sont des fausses oppositions tactiques, oui, de manipulation politique pour faire croire qu'il y a une gauche et une droite. Mais sur les choix essentiels, économie, d'abandon du pays, ils sont tous d'accord. Et donc, grâce à des sujets de diversion, je dis pas que c'est pas important, moi je suis contre ce projet, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez la manipulation par excellence pour donner au peuple l'impression qu'il y a la droite et la gauche. Mais cette droite-là gouverne, en fait, comme la gauche, et vice-versa.
Pascal Essérig.
Oui, en vous entendant, je découvre un discours souverainiste, certes, mais qui a le souci de l'Europe, ou en tout cas le souci de l'Europe des peuples. Est-ce que vous ne pensez pas que le discours souverainiste classique aurait, gagnerait à avoir cette ouverture européenne ?
Bah si, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que je vais faire aux européennes, où on fera une liste, justement pour montrer aux Français qu'on n'est pas contre l'idée du travail en commun. Je ne suis pas pour déclarer la guerre à l'Allemagne, comme on veut le faire croire. Je plaisante, mais j'ai rencontré des Grecs, j'ai rencontré des Italiens, des responsables politiques. On est en train de tisser un réseau de relations dans toute l'Europe parce que la problématique qui est la nôtre, elle est la même dans les autres peuples. Vous avez la même angoisse partout en Europe. Donc il faut arriver, notamment au moment des européennes, je dirais, à renverser la charge de la preuve pour expliquer à nos concitoyens qu'on n'est pas des horribles réactionnaires, qu'on ne veut pas transformer la France dans une espèce d'Albanie des années 50. On veut simplement que les peuples décident de leur destin. On veut que chaque pays ait son identité propre, se gouverne comme il veut, mais qu'en revanche, sur les sujets qui vont déterminer la hiérarchie des nations au XXIe siècle, alors là, on soit capable de s'entendre. Je vais vous dire, il y a une dizaine d'inventions qui vont déterminer la place des continents dans 50 ans. Et si sur ces 10 inventions, il n'y en a pas 5 ou 6 qui sont européennes, on sera complètement marginalisé. Alors là, oui, travaillons ensemble. Mais travaillons à 2 ou 3 pays ensemble, ou 4. Mais par 27, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous voulez que fasse Chypre ? J'ai pas de mépris pour Chypre ou Malte. Il faut arrêter les enfantillages. Il faut qu'on arrive à travailler sur les quelques grands sujets à 4 ou 5 pays, comme on a fait avec Airbus. Quand j'étais gamin, l'Europe n'avait pas un avion. Et Boeing avait le monopole. On a réussi à le faire. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle l'a voulu. Donc je vois pas pourquoi on serait pas capable de faire ça dans quantité de sujets. On a 400 000 chercheurs. Tiens, savez-vous, il y a 400 000 chercheurs européens, 400 000 qui vivent aux États-Unis. Vous vous rendez compte ?
Alors, il y a, effectivement, notre principal concurrent reste les États-Unis. Il y a une autre piste, et c'est assez symptomatique de la France. Depuis l'affaire de Gérard Depardieu, on a vu ressurgir une sorte de russophobie aiguë, comme notre bonne presse française a le secret. La Russie n'est-elle pas la porte de sortie pour cette Europe ? Parce qu'on a affaire à un vrai continent, et il y aurait une vraie collaboration à avoir, et j'ai l'impression que la France est assez frileuse vis-à-vis de la Russie.
C'est évident, ça fait des années que je plaide, j'allais dire, pour l'instant dans le désert. Y a un travail gigantesque à faire avec la Russie. L'Allemagne le fait.
L'Allemagne le fait, oui.
L'Allemagne le fait, mais les Russes aimeraient tellement le faire avec la France. Si vous voulez, la Russie et l'Allemagne le font, j'allais dire, sans amour, vous voyez. Avec amitié, mais sans amour. Les Russes sont en attente de la France. Et il faut être honnête, à partir de Giscard, ça a commencé à dérailler et la France, notamment l'élite française, est beaucoup trop tournée vers les États-Unis et pas du tout assez vers la Russie. Nous avons une collaboration à faire entre la France, l'Allemagne et la Russie qui est fondamentale. Fondamentale. Comme nous avons à mettre en place une vraie politique méditerranéenne vis-à-vis du monde arabe. On ne stabilisera pas l'immigration en mettant des miradors, mais en développant le Maghreb. Et en faisant en sorte que les Maghrébins soient plus heureux de vivre au Maghreb qu'en France. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on fera rien. J'étais le seul pendant la campagne présidentielle à parler de la relation avec l'Afrique et avec le Maghreb, avec l'Union pour la Méditerranée. C'est vital pour nous. Donc vous voyez que ce qui est vital pour nous, c'est d'avoir une politique vis-à-vis du Maghreb pour développer le Maghreb et en faire un pôle de développement et de développer la Russie et d'avoir un lien avec la Russie. Si on ne fait pas ça, on sera pris en tenaille. C'est évident, c'est tellement logique. Mais là aussi, faudrait-il encore que nos dirigeants aient une volonté et ne soient pas fascinés par le miroir aux alouettes américain.
Bah écoutez, on arrive vers la fin. Je vous remercie, Nicolas Dupont-Aignan, de votre intervention. Vous avez peut-être, j'ai cru savoir que jeudi vous êtes dans la région de Nantes. Peut-être un petit mot.
Oui, j'ai une réunion à 18h. Alors j'ai pas l'adresse là, mais on peut le trouver sur mon site internet debout-la-république.fr, où il y a mon blog, il y a le calendrier du déplacement pour ceux qui habitent en Loire-Atlantique et notamment à Nantes. Je fais une réunion publique, je crois, à 18h. Ah non, alors j'ai pas l'adresse sur moi, j'en suis désolé, mais...
Et vous n'y allez pas...
On la mettra sur...
Ouais,
sur
vous n'y allez pas pour l'aéroport, Nicolas
Dupont-Aignan. J'y vais aussi pour l'aéroport, mais j'y vais aussi visiter les chantiers navals de STX, parce que je plaide pour le second porte-avions, qui est très important pour la France, puisque vous savez qu'on a fait un porte-avions, mais qui fonctionne qu'un jour sur deux.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. On a une marine pendant 6 mois, oui.
Oui, c'est extravagant. Enfin, un pays de fous, pardonnez-moi, mais bon. Et donc, et là, je peux vous dire que, vous savez, un porte-avions, c'est 2 milliards d'euros, 2-3 milliards d'euros. On a donné 6 milliards d'euros à la banque Dexia, dans la grande indifférence générale. Donc, on a donné 60 milliards d'euros à la Grèce. Enfin, pas à la Grèce, aux banques. Donc on déverse l'argent du contribuable à un système bancaire mort et on n'est pas capable d'investir pour notre sécurité, pour notre défense, pour notre nouvelle technologie, etc.
En tout cas, bon, ça sera, je pense, une émission passionnante qu'on fera peut-être avec vous sur la défense française qui, effectivement, est dans un sale état. Merci
à
vous.
Je reviendrai vous voir si vous le voulez bien.
Pas de problème. Merci à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Nous allons faire une légère pause musicale et vous retrouver, chers auditeurs, sur Radio Courtoisie pour la suite de ces chroniques de la vieille Europe. Dans les studios de Radio Courtoisie, suite de ces chroniques de la vieille Europe, pour une émission intitulée « L'Europe, le coup d'État permanent ». Alors après avoir reçu Nicolas Dupont-Aignan en première partie, où nous avons vu tout le problème de ce traité européen, nous allons avoir par téléphone Alain de Benoît, qui effectivement a participé à ce, Pascal Essérick, à ce dossier qui va sortir d'ici 10 jours sur le traité européen. Un long dossier sur ce fameux pacte budgétaire. Donc Pascal Essérick, je vous laisse présenter notre invité que les auditeurs de Radio Courtoisie et les auditeurs des chroniques de la vieille Europe connaissent bien, et lui poser la première question qui n'est pas qui sera sur, effectivement, le pacte budgétaire européen.
Alors, déjà, c'est Alain Benoît, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez entendu Nicolas Dupont-Aignan.
Oui.
Quelle est votre impression?
Mon impression, qui n'est pas une surprise, est une très bonne impression. Dupont-Aignan est un esprit clair, qui pense juste, et qui me paraît avoir fait une très bonne analyse de la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ai particulièrement apprécié le fait que son souverainisme soit un souverainisme ouvert, c'est-à-dire qui n'est pas fermé à toute idée d'Europe, mais qui fait bien la distinction entre la construction européenne telle qu'elle s'est faite depuis le début, c'est-à-dire en dépit du bon sens, et ce que pourrait être une Europe associée, commune, engagée dans des projets communs, et par ailleurs ouverte, bien sûr, sur le monde russe.
Alors, pour en revenir sur ce dossier de la revue Élément, qui est intitulé « Pacte budgétaire européen, le coup d'État fin de la souveraineté. Je voudrais rebondir sur une tribune parue dans le quotidien L'Humanité. C'est l'économiste Paul de Lima qui expliquait que le pacte budgétaire européen marquait une rupture radicale dans l'histoire de France. Le 1er janvier dernier, nous avons vécu en effet la fin, disait-il, de 7 siècles d'indépendance budgétaire au profit d'instances européennes et bancaires sans aucun contrôle démocratique. Alors c'est la raison pour laquelle, Alain de Benoît, vous expliquez dans votre éditorial à paraître que, contrairement à ce qu'on croit, la fin du monde a bien eu lieu.
Oui, l'éditorial s'intitule en effet « La fin du monde a bien eu lieu ». C'est un clin d'œil aux peurs qui ont touché certains milieux à propos de l'apocalypse annoncée pour le 23 décembre dernier, bien entendu. Ce n'est pas le 23 décembre que la fin du monde a eu lieu. Mais je crois, en effet, qu'il y a un monde qui s'est terminé non pas du jour au lendemain, mais en l'espace de quelques décennies, et qui, pour beaucoup, s'est déroulé sous nos yeux. C'est important de le dire, car je crois que lorsqu'on est dans un nouveau contexte, dans une nouvelle situation, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est d'analyser cette situation nouvelle avec les schémas, les concepts, les idées qui se rapportaient au monde ancien que nous avons connu. Alors ce monde ancien, il y a évidemment beaucoup de manières différentes de le caractériser. Il a eu ses qualités, il a eu ses défauts, mais il y a quelque chose qui lui était propre, c'est que la vie quotidienne du plus grand nombre y était au moins réglé par des dispositifs de sens aptes à dispenser des repères. Et ce qui, de la vie générale aujourd'hui, disparaît le plus, ce sont précisément les repères. C'est vrai à la fois dans la vie sociale, où tout ce qui était institutionnel, tout ce qui faisait l'objet d'un certain consensus est progressivement déconstruit, pour prendre un mot à la mode, ou remise en question. C'est vrai également à l'échelle internationale et d'un simple point de vue géopolitique, puisque tous les pays, toutes les régions du monde qui étaient relativement stables il y a encore quelque temps, se trouvent aujourd'hui en proie à des convulsions diverses et variées. Je me souviens d'un livre qui avait été publié par Eric Werner, et qui s'appelait « L'avant-guerre civile ». Et je trouve que ce titre avait quelque chose de prémonitoire, car nous sommes en effet, dans les sociétés où nous vivons, dans une sorte d'état qu'on pourrait appeler la guerre civile froide. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le chaos, mais c'est presque le chaos. On est dans une situation, je dirais, sub-chaotique. Et je pense que les gouvernements, au fond, se satisfont de cette situation sub-chaotique. Comme elle n'est pas totalement chaotique, ils peuvent encore la maîtriser, mais elle est suffisamment sub-chaotique, les sociétés sont suffisamment atomisées, disloquées, segmentarisées, pour que leur pouvoir soit plus difficile à contester.
Les traités européens qui sont entrés en vigueur au 1er janvier, il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a eu aucune baïonnette pour faire ce coup d'État, pardon. Il n'y a eu aucun fusillé, aucune révolte d'ailleurs, à peine une colère contre ce qu'on on pourrait appeler la gouvernance, ce césarisme financier. Comment vous expliquez cette apathie?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, vous citez tout à l'heure un article paru dans L'Humanité qui utiliser le terme de rupture historique, si j'ai bien compris.
Oui, exactement.
Je crois que nous sommes en effet arrivés à une date historique, qui est la prise de contrôle par les banques, par les marchés financiers, de la vie des gouvernements. Mais en même temps, je ne parlerai pas de rupture, car c'est là le point d'aboutissement, à mon sens, d'un processus qui vient de plus loin. Car finalement, lorsque on se retourne sur soi-même pour regarder ce qui s'est fait au cours de ces dernières décennies, on voit que tout allait plus ou moins dans ce sens-là. Tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan parlait du dévoiement de la finance. C'est une très bonne formule, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Première réflexion, le capitalisme, le système capitaliste, dont les marchés financiers sont une illustration parfaite, a lui-même muté en passant de l'ancien monde au nouveau monde. Nous ne sommes plus dans le capitalisme marchand du XVIIIe siècle, nous ne sommes même plus dans le capitalisme industriel du XIXe et du XXe siècle. Nous sommes dans un capitalisme d'un type nouveau, qui est essentiellement un capitalisme spéculatif et financier. C'est-à-dire que jamais, comme aujourd'hui, la finance de marché ne s'est autant dissociée de l'économie concrète, de la production réelle. Donc nous sommes dans un monde où l'argent, qui est souvent une sorte d'argent fictif, désubstantialisé, circule à une vitesse extraordinaire d'un bout à l'autre de la Terre, sans qu'il y ait un rapport réel avec l'économie vraie. Et deuxièmement, nous assistons à la prise de pouvoir ouverte de la direction des États et des gouvernements par des représentants, des fondés de pouvoir, des banques ou des marchés financiers. Vous savez, comme moi, que Mario Draghi, Mario Monti et quelques autres encore sont des représentants directs ou indirects de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, etc., etc. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette mainmise de la finance sur le politique restreint encore le champ de manœuvre, le terrain d'action du politique. On pourrait dire également que c'est la soumission du public au privé. Dupont-Aignan, tout à l'heure, évoquait également à juste titre l'époque où les États, pour financer leurs grands travaux publics, leurs grands investissements, pouvaient emprunter à un taux d'intérêt nul ou à un taux d'intérêt très réduit les sommes dont ils avaient besoin auprès de leur banque centrale, ce qui n'est plus possible aujourd'hui puisque l'on a décrété l'indépendance des banques centrales, ce qui fait que par là, on a contraint les États, ou plus exactement, les États se sont eux-mêmes contraints à se mettre dans la dépendance directe du système privé représenté par les banques et les marchés financiers qui ne leur prêtent qu'à des taux d'intérêt variables, mais toujours suffisamment avantageux pour garantir le risque que prennent ces établissements en faisant les prêts en question. Donc voilà ce à quoi on assiste. Alors pourquoi est-ce que c'est une date historique malgré tout ? Eh bien parce que le 1er janvier a été la date d'entrée en vigueur de deux dispositions fondamentales qui ont été prises en 2012. La première étant la création de ce qu'on a appelé le mécanisme européen de stabilité.
Voilà, oui.
Qui a été adopté en février 2012, et l'autre étant le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, le TSCG, qui a été adopté en mars, c'est-à-dire tout de suite après, et qui rentre effectivement en vigueur le 1er janvier.
Alors, je voudrais qu'on entre plus précisément dans la mécanique, dans cette mécanique dont se sont servis les gouvernants de la zone euro pour, et je mets entre guillemets, sauver l'euro. Plus précisément sur ce nouveau traité instituant ce mécanisme européen de stabilité, le MES, dont vous avez parlé, et qui engage ses membres de manière irrévocable et inconditionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est le MES et à quoi sert-il ?
Je vais essayer de simplifier parce que ce sont des choses relativement complexes et comme vous le savez, ça passe d'autant mieux que les gens trouvent que c'est très compliqué et que par conséquent, ils n'y accordent pas toujours l'importance que cela mérite. Le mécanisme européen de stabilité a répondu à la situation qui était ce qu'elle était il y a exactement un an, c'est-à-dire début 2012, à un moment où l'euro était pratiquement au bord de l'explosion. Vous vous souvenez qu'on envisageait le départ de la Grèce de la zone euro, de suivi par d'autres pays, la division de l'euro en deux zones euro différentes, enfin, toutes sortes de choses dont la commission de Bruxelles ne voulait pas entendre parler. Et par conséquent, il a bien fallu qu'ils prennent des mesures. Alors, le mécanisme européen de stabilité, c'est un organisme qui a un capital constitué évidemment par les États européens et qui fournira ou fournirait, pour autant qu'il en ait les moyens, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout assuré, aux États qui se trouveraient en difficulté, les sommes dont ils auront besoin dans des conditions qui sont évidemment l'objet de conditions qui étaient à préciser. Alors, le traité, lui, va beaucoup plus loin et il donne tout son sens à ce mécanisme européen de stabilité. D'abord, le traité implique l'adoption de ce qu'on a appelé la fameuse règle d'or. Alors, la règle d'or, je vous en rappelle brièvement les dispositions, c'est que, selon cette règle, la dette des États ne doit plus dépasser 60% du pays, du produit intérieur brut. Or, signalons-le tout de suite, ce seuil est précisément dépassé pratiquement partout, puisqu'en France, on est déjà à près de 90% du produit intérieur brut, ce qui signifie que tous les États sont concernés. Le traité indique par ailleurs qu'un pays qui se trouverait dans une situation avec une dette supérieure à 60% de son PIB devra réduire chaque année ce ratio d'au moins un vingtième de l'écart avec 60%. Je résume, pour vous donner un exemple, cela signifie que la dette publique française, qui s'élève aujourd'hui à environ 1700 milliards d'euros, il faudrait en plus dégager chaque année 85 milliards d'euros, soit le cinquième du budget de l'État, et cela sans compter le paiement des intérêts courants, qui avec près de 50 milliards d'euros par an représente aujourd'hui le premier budget de l'État avec l'éducation nationale. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose de considérable. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là car le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne introduit une clause nouvelle, nouvelle à l'échelle européenne, mais pas nouvelle dans le monde puisque c'est une clause dont usait et abusait jusqu'à présent le Fonds monétaire international, qui est une clause de conditionnalité. Cela veut dire que les pays qui se trouveront désormais en difficulté financière pourront éventuellement être aidés, mais à la stricte condition qu'ils acceptent de se soumettre aux conditions qui leur seront imposées à cette occasion, c'est-à-dire qu'ils adoptent un certain nombre de mesures, disons pour faire bref, des mesures libérales de réduction des services publics, c'est-à-dire de réduction des services sociaux, de privatisation, de libéralisation pour ce qui est des délocalisations, ce qui favorisera la désindustrialisation. Bref, toutes ces conditions d'austérité dont on voit bien à l'heure actuelle qu'elles ont pour seul effet d'augmenter le chômage, de faire baisser les revenus, le pouvoir d'achat, et par conséquent de diminuer les rentrées fiscales de l'État, ce qui est exactement ce qui l'empêche de réduire ses déficits.
Mais alors, excusez-moi de vous, vous interrompre, pourquoi cette bienveillance des élus socialistes lors du vote de ces traités? On l'a vu récemment.
Ben parce que, tout simplement, ils partagent dans le domaine économique et financier exactement la même idéologie à laquelle adhérait le gouvernement précédent. Entre la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement, il n'y a aucune différence quant à leurs choix économiques et financiers. Ils ont décidé de capituler devant les banques, de capituler devant les exigences de la Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. Je crois que c'est quelque chose qui apparaît pleinement désormais de plus en plus chaque jour. Ce qui aggrave, si je peux dire, le cas du gouvernement actuel, c'est qu'il y ajoute de l'hypocrisie. le gouvernement précédent ne se cachait pas de favoriser les intérêts financiers au détriment des intérêts nationaux, mais vous vous souvenez certainement que François Hollande avait déclaré au cours de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle que son ennemi était la finance, n'est-ce pas? Moyennant quoi, il était ensuite allé à Londres pour rassurer les gens de Wall Street en leur disant qu'il ne fallait quand même pas prendre tout ça trop au sérieux. Ben, on voit aujourd'hui qu'effectivement, il se soumet à toutes ces demandes. Or, la conséquence directe de ces demandes, non seulement que ce sera l'adoption de politiques d'austérité qui ne permettent nullement d'atteindre le but fixé, mais qu'en plus, et c'est là où l'on retrouve l'élément véritablement historique, elles vont interdire, comme le disait tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan, aux États et aux gouvernements d'avoir la maîtrise de leur budget. Les États ne pourront plus les parlements nationaux, disons, se verront amputés de l'une de leurs principales raisons d'être, qui est le pouvoir de décider de manière souveraine des recettes et des dépenses de l'État.
Il y a l'Angleterre qui n'a pas signé, je crois. Hein.
Oui, comment? L'Angleterre et la République.
Non, l'Angleterre n'a pas signé, elle est là.
Non, l'Angleterre n'a pas signé, mais elle a d'autres difficultés. Bien sûr, je trouve que Dupont-Aignan était peut-être un peu optimiste en ce qui concerne l'Angleterre, qui n'a certes pas à subir les inconvénients du système de l'euro, mais qui se trouve dans une situation d'endettement, comme d'ailleurs les États-Unis, qui est tout aussi préoccupante. Mais enfin, le fait est que le pouvoir de décider des recettes et des dépenses de l'État, qui était la prérogative des parlements nationaux, et c'était même une des bases fondamentales de la démocratie, va être désormais transféré à la Commission européenne. Donc, vous avez là, d'une part, une amputation considérable, évidemment, de souveraineté. Vous avez, d'autre part, une règle de conditionnalité qui est en fait une règle de chantage, n'est-ce pas, puisque elle dit si vous n'adoptez pas la ligne de conduite que l'on vous impose, vous n'aurez pas ce que vous demandez. Et enfin, et c'est un troisième point sur lequel je voudrais attirer l'attention, il y a le problème de l'irréversibilité de ces mesures. Vous vous souvenez peut-être que Nicolas Sarkozy voulait faire inscrire la règle d'or dans la Constitution.
Oui. Hein?
Le traité, le TESG, précise justement que les États membres doivent inscrire la règle d'équilibre budgétaire et le mécanisme chargé de l'appliquer dans leur Constitution ou, à défaut, dans un dispositif contraignant et permanent dont il est officiellement spécifié qu'il ne sera pas soumis à la délibération parlementaire, n'est-ce pas, ce qui est une façon ouverte de dire que on choisit une voie non démocratique. Je voudrais citer à ce propos une phrase d'Angela Merkel que je trouve tout à fait remarquable. Je vous la donne. La règle d'or, a-t-elle dit, va être contraignante et s'appliquer de manière permanente. Les règles ne doivent en aucun cas pouvoir être changé par une nouvelle majorité parlementaire. C'est-à-dire que le rôle qui est assigné à la Constitution n'est plus du tout de fixer de manière concise et précise en même temps les règles du fonctionnement des institutions, mais de soustraire au pouvoir démocratique, à la souveraineté populaire, toute une série d'orientations qui normalement leur appartiennent.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous recevons dans cette deuxième partie Alain de Benoît pour le prochain dossier de la revue Éléments sur le traité européen. Je voudrais vous poser quasiment presque la même question que j'ai eue avec Nicolas Dupont-Aignan. On nous a vendu de l'Europe, mais j'ai plus l'impression qu'on nous a vendu de la mondialisation. Et quand j'ai préparé ce dossier, en tout cas, on regardait ça avec Pascal et Céric, et c'était assez intéressant. En préparant l'émission, je suis tombé sur on a pris la liste des gouverneurs de la banque centrale de chaque pays. Et en regardant leur parcours professionnel et parfois politique, on s'est aperçu
que nous publions dans le
dossier de la revue Éléments que un tiers de ces personnes sont passées par le FMI. En fait, l'Europe, elle a créé surtout une mondialisation plus qu'une Europe.
Ben, je dirais que les dernières dispositions qui ont été prises avec ce mécanisme et ce traité ont pour conséquence directe non seulement de mettre à la tête des États et des gouvernements, bien souvent des représentants des banques et des marchés financiers, mais également d'instaurer en Europe des méthodes qui, jusqu'ici, concernaient surtout les pays du tiers-monde et étaient principalement mises en œuvre par le Fonds monétaire international, le FMI. On pourrait dire que ce traité institue une sorte de FMI européen et par conséquent, sa vocation proprement européenne reste encore à décider. Moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est l'évolution du regard que les gens ont été amenés à porter sur l'Europe. Il y a encore 20 ans, la construction européenne n'avait finalement pas beaucoup d'adversaires. Dans bien des pays, en France notamment, l'Europe apparaissait comme une sorte de solution universelle. C'était la solution à tous les problèmes. Et puis petit à petit, notamment à partir du traité de Maastricht, l'Europe est devenue un problème supplémentaire, et qui n'a cessé d'en encourager d'autres, d'en faire naître d'autres. Je suis très frappé également que l'organisation qui représente aujourd'hui cette construction européenne, à savoir l'Union européenne, dément chaque jour un peu plus son propre intitulé, car non seulement elle ne contribue pas à l'Union européenne, mais elle en accélère au contraire la désunion. L'euro a été instauré à un niveau trop élevé, comme cela a été dit tout à l'heure, avec l'espoir qu'il allait faire converger des économies nationales qui étaient divergentes. Le résultat, évidemment, c'est qu'au contraire, il a aggravé leurs divergences et que les rancœurs se sont accumulées. On a vu dans des pays comme la Grèce monter une vague de germanophobie comme on n'en avait pas connu en Europe depuis bien longtemps. Et à l'inverse, dans des pays comme l'Allemagne, on a vu une sorte de fatigue un peu méprisante vis-à-vis des pays du Sud qualifiés de pays du club méditerranéen. Donc on voit actuellement renaître des antagonismes à l'intérieur de l'Europe dont on pouvait espérer qu'ils avaient disparu. Et par conséquent, cette Union européenne qui vient de recevoir de manière tragiquement comique, si l'on peut dire, en tout cas par entrée en antiphase, le prix Nobel
de la paix,
au contraire, on a l'impression qu'elle met plutôt en place des conflits futurs, je ne dirais pas une future guerre, mais en tout cas des dissensions et des conflits, sans quoi, évidemment, elle n'est plus du tout dans sa vocation. Donc la situation globale, c'est bien celle-là, c'est la domination du politique, non plus tellement par l'économique, mais par le financier, le règne sans partage du système de l'argent à l'échelle de la planète, d'une planète transformée en une sorte d'immense marché, peuplé d'individus qui obéissent eux-mêmes, à la recherche de profit, à l'intérêt maximal, en ne se référant plus qu'à des valeurs marchandes. Donc, il y a à la fois des transformations politiques et économiques, mais également des transformations sociologiques, et je dirais même anthropologiques, c'est-à-dire que l'homme lui-même, dans ce climat, se modifie. Alors, tout à l'heure, vous posiez une autre question, qui était de savoir, au fond, pourquoi il y a si peu de réactions. Je crois que c'est une très bonne question à laquelle il n'est pas très facile de répondre. Parfois, on a l'impression que les peuples européens sont en quelque sorte épuisés, vidés de leur énergie, n'est-ce pas ? On a aussi l'impression qu'ils ont en quelque sorte intériorisé l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Vous savez que ça a été le grand leitmotiv dans les milieux libéraux depuis des décennies. There is no alternative, n'est-ce pas ?
C'est la fameuse Tina.
Margaret Thatcher, oui. Qui ne savait pas que Radio Courtoisie, on doit s'exprimer en français. Et
vous
cette formule, il n'y a pas d'alternative, c'est au fond le message subliminal qui est distillé en permanence par la quasi-totalité des médias. On voit bien qu'on vit dans un monde pénible, difficile, où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de misère, une pauvreté qui s'étend, mais on ne peut faire au mieux que des améliorations marginales, car si on voulait vraiment changer de système, ça serait ou l'utopie, ou l'échec, ou l'horreur. Comme si l'imagination humaine était au bout de sa course et que dans ce domaine-là, on était véritablement arrivé à la fin de l'histoire. Donc je crois qu'il faudrait déjà que les gens s'aient à l'esprit que l'histoire humaine est toujours ouverte, qu'elle est imprévisible et qu'il y a de fort peu de chances pour que nous ne soyons plus capables d'envisager d'autres alternatives au système de société dans lequel nous vivons.
Maintenant,
juste encore un mot sur ce point, je suis quand même frappé, pour prendre les choses de manière un peu plus franco-française, par le relatif silence dans lequel ces mesures ont été adoptées et viennent d'entrer en vigueur.
Ah oui.
Il y a des sujets dont on parle apparemment beaucoup plus et qui n'ont pas la même importance. Je suis très frappé, alors qu'on avait beaucoup débattu du traité de Maastricht, qu'on avait également même débattu du traité de Lisbonne, que ce traité sur la stabilité, la coordination et la fameuse gouvernance de l'Union européenne suscite aussi peu de réactions, alors qu'il représente en effet un véritable coup d'État, qu'il mette brutalement un terme à la souveraineté des États et des gouvernements en matière budgétaire, ce qui n'est tout de même pas loin. Je suis très frappé que les gens qui vont manifester dimanche prochain par centaines de milliers à propos de la question du mariage pour tous ou du mariage homosexuel ne manifestent pas contre le traité contre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui ne manifeste pas contre les plans sociaux et les licenciements qui se multiplient, qui ne manifeste pas contre la misère sociale qui se répand, qui ne manifeste pas contre les délocalisations, les désindustrialisations auxquelles nous assistons à l'heure actuelle, alors que ce sont là des sujets qui, à mon avis, sont au moins, sinon plus importants que les débats de société qui les passionnent tellement. Je vous rappelle quand même, pour ne donner qu'un seul chiffre, qu'à l'heure actuelle, d'après ce que nous disent les économistes, un quart de la population européenne, c'est-à-dire 120 millions de personnes, est menacée dans les mois qui viennent de verser plus ou moins définitivement dans la pauvreté. 120 millions de personnes en Europe sont menacées aujourd'hui de pauvreté. Oui, et c'est là, je pense, quelque chose qui est extraordinairement significatif, mais également peut-être avant-coureur. Dupont-Aignan disait tout à l'heure, nous allons ou vers l'esclavage, ou vers la misère, ou vers la révolution. Je vous avoue que personnellement, je préfère très nettement la révolution aux deux autres perspectives. Mais nous n'en sommes de toute façon pas là, mais on peut dire que nous dansons en quelque sorte sur un volcan.
Alors, nous sommes toujours sur Radio Courtoisie et vous écoutez les Chroniques de la Vieille Europe. Nous avons par téléphone Alain de Benoît pour une émission sur l'Europe, le coup d'État permanent, d'après le dernier dossier de la revue Élément. Pascal Essérick, question.
Oui, je voudrais rappeler que le coup d'État permanent, c'est aussi donc la fin de la souveraineté. Et à cet égard, je voudrais vous poser la même question qu'à Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'on peut sortir de l'euro? Est-ce qu'on peut revenir aux monnaies nationales? Est-ce que c'est possible, c'est souhaitable?
Alors, possible et souhaitable, ce sont déjà deux choses très différentes. Vous l'avez très certainement compris. Sortir de l'euro... En théorie, oui, un pays peut sortir de l'euro, il peut refuser de continuer à être dans ce système. On l'avait envisagé il n'y a pas si longtemps dans le cas de la Grèce et peut-être même dans le cas d'autres pays. Mais une sortie isolée de l'euro mettrait très vraisemblablement ce pays dans une situation très très difficile dans ses échanges économiques, financiers avec le reste des pays européens, pour ne rien dire, du reste du monde. Donc, si l'on voulait véritablement envisager la fin de l'euro, il faudrait que ce fût de manière concertée, c'est-à-dire, sinon la totalité des pays qui aujourd'hui ont recours à l'euro, du moins un nombre appréciable de pays et de pays importants. Or, on voit bien qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ce qui est en perspective. Ce qui est en perspective, c'est le contraire, c'est-à-dire que les autorités qui sont en place vont faire humainement tout ce qui est possible pour sauver l'euro. Est-ce que ça suffira ? Nicolas Dupont-Aignan dit que ça ne suffira sans doute pas, c'est également d'ailleurs mon avis, mais nous restons là dans une conjoncture qui ne dépend pas de la volonté de tel ou tel aujourd'hui. J'ajouterais que le grand problème de l'euro, c'est pas son existence intrinsèque. Je veux dire par là, l'idée d'une monnaie unique en Europe, personnellement, ne me choque pas. Simplement, il faut que ce soit une monnaie qui soit viable. Or, le grand problème de l'euro, c'est qu'il a été calqué dès le début sur le mark. Les Allemands en avaient fait une condition. Les Allemands étaient très attachés au mark, comme chacun sait, et ils n'ont consenti à abandonner le mark qu'à une condition, c'est que l'euro soit fixé au même niveau que le mark. Ce qui revient à dire que depuis l'instauration de l'euro, à peu près tous les pays d'Europe utilisent le mark ou l'équivalent du mark. Or, une monnaie trop élevée ne peut pas être utilisée par des économies qui ne sont pas au niveau de l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle les divergences que l'on prétendait conjurer avec l'adoption de l'euro, au contraire, n'ont cessé d'augmenter jusqu'à produire les effets que l'on sait. J'ajouterais qu'en toute hypothèse, si d'aventure la monnaie unique devait disparaître, je pense qu'il serait souhaitable que l'on conservât une monnaie commune. Monnaie commune et monnaie unique, vous savez bien sûr quelle est la différence. La monnaie unique, c'est que dans tous les pays de la zone euro, tout le monde utilise l'euro, tandis que dans le schéma de la monnaie commune, on a d'un côté un retour aux monnaies nationales, et à partir de ces monnaies nationales, on constitue un panier de monnaies, ce qui permet d'évaluer un euro moyen, en quelque sorte, qui est utilisé comme unité de réserve pour les échanges extérieurs à la zone euro. Et je pense qu'une telle monnaie commune serait une bonne chose, dans la mesure où elle pourrait contribuer, c'était l'une des ambitions d'ailleurs que l'on attribuait au début à l'euro, elle pourrait contribuer à remettre en question ou à accélérer la remise en question de l'hégémonie du dollar.
Vous parliez tout à l'heure d'une possible ou alors d'une souhaitable révolution. Est-ce que la pire qu'on n'est pas en train de voir, c'est plutôt une sorte d'émigration? On commence à le voir dans des pays comme le Portugal où la jeunesse est en train de partir directement du pays. Est-ce que ce genre de conséquences, comme un peu l'Irlande du 19e siècle, de voir une jeunesse qui va partir dans le Nouveau Monde? On voit des départs au Canada, en Australie, un peu partout.
Bien sûr.
Et est-ce que c'est pas là le vrai danger de la fin de l'Europe, là?
C'est un danger considérable, bien entendu, mais le mouvement a commencé avec les délocalisations. L'Europe, comme vous le savez, est désormais soumise au dumping social d'un certain nombre de pays du tiers-monde ou des pays émergents, à commencer par la Chine. Et par conséquent, les travailleurs des pays européens se trouvent mis en concurrence artificiellement avec des travailleurs de pays lointains qui sont payés 10, 20, 50 ou 100 fois moins qu'eux-mêmes. Dans ces conditions-là, bien entendu, les entreprises qui, elles, n'ont qu'un seul but, c'est de maximiser leurs profits, préfèrent délocaliser leurs unités de production vers ces pays-là, où il n'y a pas de contraintes légales, pas de contraintes sociales, pas de contraintes environnementales, et où les coûts salariaux sont extrêmement, extrêmement bas. Donc on commence par délocaliser les entreprises et les unités de production, et puis on met en route un mouvement de désindustrialisation qui, dans le climat actuel d'austérité, de baisse des revenus et de montée du chômage, entraîne inévitablement l'émigration que vous évoquez. Prenez un pays comme l'Espagne, un quart des Espagnols est au chômage et 50% des jeunes de moins de 25 ans, des jeunes Espagnols, sont actuellement au chômage. Imaginez cela, un pays européen où 50% des jeunes n'ont pas d'emploi, c'est quelque chose qui ne s'était pas vu depuis je ne sais combien de temps. Certains pays européens aujourd'hui connaissent en temps de paix des conditions sociales que l'on n'avait pas vues en Europe depuis la période de la guerre. Cette émigration que vous signalez, qui atteint les pays évidemment les plus touchés, va de pair avec un autre type d'émigration qui est l'évasion, pas seulement fiscale, mais tout simplement les transferts monétaires. Dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal, on assiste depuis plusieurs mois à une vague extraordinaire de retrait des avoirs que les citoyens ont dans les établissements bancaires, c'est-à-dire que les gens retirent leurs sous, tout simplement, pour les envoyer dans des pays dont ils jugent, à tort ou à raison, que la situation y est un peu meilleure. Donc, les pays touchés se vident de tout. Ils se vident de leurs entreprises, ils se vident de leur population, et ils se vident de leurs fonds.
Dernière question de Pascal Essérick.
Ah oui, Alain de Benoît, les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent le parti pris pro-européen de la revue Élément. Ils connaissent également votre engagement en faveur de l'idée européenne depuis de longues années, depuis de longues décennies. J'ai une question. Est-ce que vous êtes, Alain de Benoît, est-ce que vous êtes devenu anti-européen ?
Non, je ne suis pas du tout anti-européen. Je vous le disais tout à l'heure, le reproche essentiel que je fais à l'Union européenne, c'est qu'elle est en train de tuer l'Europe. C'est qu'elle est en train non seulement de tuer l'Europe, mais de discréditer l'idée même d'Europe. Dans les écrits que j'ai publiés sur l'Europe, j'en ai publié un certain nombre qui ont trait précisément à la mise en perspective historique de la construction européenne. Et je dis que cette construction européenne s'est faite en dépit du bon sens. Pour résumer à très grands traits, on est parti de l'économie et du commerce alors qu'il aurait fallu partir de la politique et de la culture. On a construit l'Europe à partir du haut, c'est-à-dire une commission européenne qui s'est attribuée d'emblée tous les pouvoirs, qui s'est déclarée omnicompétente, alors qu'il aurait fallu partir du bas, des régions et des nations, pour ne faire remonter vers le haut que les décisions qui ne pouvaient pas être prises à un niveau plus subalterne, c'est-à-dire l'application du principe de subsidiarité. D'autre part, lorsque le système soviétique s'est effondré, on avait le choix entre l'élargissement de la construction européenne ou l'approfondissement. Au lieu de choisir l'approfondissement des structures qui était un préalable nécessaire à l'élargissement, on a choisi d'emblée l'élargissement, c'est-à-dire qu'on a ouvert à 20, 25, 27 pays, avec comme résultat une sorte de monstre technobureaucratique qui est à la fois paralysé et impuissant. Et enfin, les peuples européens n'ont jamais été associés à la construction de l'Europe, à cette construction de l'Europe, et les rares fois où ils l'ont été, par le moyen de référendums, vous vous souvenez du référendum en France et en Hollande, ils ont dit non, et quand ils ont dit non, on n'a pas tenu compte de leur non, on les a fait revoter jusqu'à ce qu'ils finissent par dire oui. Donc, cette construction de l'Europe a été véritablement opérée en dépit du bon sens, et le grand drame, à mes yeux, mais ce n'est pas seulement mon cas, je crois, c'est d'avoir discrédité à tort l'idée d'Europe, au lieu de s'être tournée vers ceux qui s'en faisaient une idée plus mesurée, plus juste, plus précise, plus constructive.
Merci à vous, Alain de Benoît.
Et merci pour cette conclusion.
Pile poil sur le point beau, très joli. Mais on vous remercie. Puis on retrouvera le numéro d'éléments d'ici 10 jours, je crois, en kiosque, mon cher Pascal et Céric. Voilà, c'est la fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. On vous retrouvera dans 4 semaines. Autrement, vous pouvez réécouter cette émission pendant je crois 15 jours sur radiocourtoisie.fr, ou alors vous pouvez aller aussi sur notre site vieilleeurope.fr où vous pourrez retrouver toutes nos émissions. Voilà, bonne soirée à vous sur Radio Courtoisie. Pascal et Céric, merci, et puis je pense qu'on retrouvera acolytes pour le mois de février.
Je l'espère pour vous.
Je l'espère aussi. Voilà, bonne soirée à tous.